France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Questions Politiques. Il s'est passé quelque chose cette semaine. D'abord sur le plan national, la France n'a jamais été aussi proche d'avoir un budget. Jusqu'où est-ce une bonne nouvelle ? À quel prix ? Nous poserons la question à notre invité, lui qui pense que la dette publique est un renoncement. Et puis sur le plan international, il s'est passé quelque chose à Davos. Alors pas les sempiternels discours des puissants du monde sur les inégalités et la lutte contre le réchauffement climatique, des mots plus ou moins suivis d'actions en général. Non, les sons ont beau être étouffés dans la bulle suisse, l'âpreté des rapports de force avec les États-Unis de Donald Trump a éclaté plus que jamais au grand jour, comme les volontés, ces nouveaux, de contre-attaque. Et sur le Groenland, le locataire de la Maison-Blanche a pour l'heure reculé. Aux yeux de notre invité, nous vivons l'un des moments les plus dangereux de notre histoire. Que peut faire l'Europe à l'ère de la radicalité ? Il lance un appel aux eurodéputés. L'ancien commissaire européen Thierry Breton est en direct sur France Inter, France Info, le canal 16 de la télé. Et cette émission est en partenariat avec le journal Le Monde. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
France Inter. Questions politiques. Alexandra Ben Saïd.
Bonjour et bienvenue Thierry Breton.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interviewer, je salue Alix Bouillaguet de France Télévisions. Bonjour Alix.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Bonjour.
Avec vous tout à l'heure, on fera le portrait.
Oui, on va revenir sur votre parcours Thierry Breton, celui d'un geek avant l'heure, un touche-à-tout, un électron libre au fort tempérament, aussi admiré que parfois un peu contesté.
Et Françoise Fressoz est également en plateau. Bonjour Françoise.
Bonjour à toutes et tous.
Du journal Le Monde, Françoise Fressoz. Avec vous tout à l'heure, on se projettera, comme tous les dimanches, vers 2027. Ce dimanche, vous voulez entendre Thierry Breton au sujet des liens entre les patrons et l'extrême droite.
Oui, parce que c'est ce qui me frappe beaucoup dans la période actuelle, cette petite musique qui monte. Au fond, Jordan Bardella, ça serait pas si mal, il est jeune, il est malléable, il peut être la nouvelle Mélanie en France. Alors, est-ce que vous entendez cette musique ? Et vous qui avez travaillé étroitement aux côtés de Jacques Chirac, comment vous réagissez ?
On entendra vos réponses Thierry Breton, ça sera vers 12h50. Mais d'abord, 5 minutes d'actu entre quatre yeux. Au sujet du Groenland, on commence par là, la tension est retombée. À Davos, Donald Trump a dit renoncer à employer la force pour annexer le territoire. Il a aussi, pour l'heure, abandonné l'idée de nouveaux droits de douane sur les pays européens qui ont envoyé au Groenland quelques militaires, comme la France. Fin d'une semaine mouvementée, à votre avis, pour combien de temps ?
Je crois que tout le monde le dit, Alexandre Ben Saïd. On est rentré dans une ère, moi je l'ai qualifiée d'ère de la radicalité. Et je vais vous le dire ce matin à votre micro, ça va durer. Ce qu'on a vécu en 2025, c'était évidemment cette sidération, il n'y a aucune raison, vous m'entendez bien ? Aucune raison pour que ça s'arrête. Donc ça va continuer. Il faut bien que nous comprenions, nous désormais Européens, que le monde d'avant, c'est fini. Et que donc la seule solution pour nous, ou bien on regarde en spectateur le conflit qui s'annonce, tout le monde le sait, entre les États-Unis et la Chine. Et on attend de voir qui va nous manger, qui vont être les prédateurs, on le sait, combien nous allons devoir payer, ou bien nous prenons notre destin en main.
Alors, prendre son destin en main, je reviens quand même au Groenland, on a eu des menaces terribles. Hein. On va dérouler tout ça, et comment l'Europe peut réagir, ça va être le cœur de cette émission. Mais sur le Groenland, on a eu des menaces terribles, on a eu la désescalade. Vous connaissez l'acronyme TACO, Trump's always chickens out. Donald Trump qui serait seulement une poule mouillée.
C'est ça, en fait, il se dégonfle toujours, voilà.
Ou alors, autre théorie, Trump est très malin et nous subissons toujours son excellente technique de deal. Vous le voyez comment ? Est-ce que c'est une poule mouillée ou un excellent stratège ?
Non, il est tout simplement extrêmement dans sa logique. Sa logique, elle a été confirmée dans ce document de la Sécurité nationale en novembre 2025, vous vous en souvenez. Elle a été reconfirmée avant-hier dans le document désormais, qui est le document jumeau, donc cette fois-ci qui vient du département de la Défense. Non, je l'ai redit, je vous le redis encore ce matin, et il est dans une logique qui est une logique impériale. Je sais que ça va faire sourire un certain nombre de nos auditeurs, et je les comprends. Moi-même, quand j'ai commencé à me plonger là-dedans, j'en ai moi-même souri aussi.
Mais enfin, aujourd'hui, du mot empire,
mais parce qu'au fond, ces références en permanence au président McKinley 1896, 1901, puis ensuite au président Theodore Roosevelt 1901, 1909, qui ont été des présidents impériaux, où il faut vraiment, pour que l'Empire avance, il faut reconquérir des territoires. Voilà, c'est la référence, je vais vous le dire, MAGA. C'est la référence MAGA,
Make America Great Again,
qui était encore une fois une référence. C'est aussi ça, les États-Unis. Vous savez, j'ai vécu très longtemps aux États-Unis. C'est un pays que je connais bien, que j'ai aimé, que j'aime toujours, du reste. C'est un pays que je connais vraiment bien. Il y a aussi ça aux États-Unis. Cette frange MAGA, elle tombe pas du ciel. Elle trouve ses origines aussi entre les deux guerres, avec le suprémacisme, avec le eugénisme, avec le Ku Klux Klan. C'est aussi ça. Et c'est aussi ça, MAGA.
Vous n'avez pas l'impression que là, il y a quand même des choses qui... Il y a une inflexion, par exemple... Le rapport entre Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, celui qui a appelé Trump daddy, mais là on voit bien qu'il a peut-être, et peut-être lui qui a réussi à faire dégonfler l'affaire du Groenland, il a discuté avec Trump, il y a un accord très flou, on le surnomme l'homme qui murmure à l'oreille de Trump, est-ce que il a trouvé la bonne méthode, avec une grosse dose de flatterie peut-être, mais...
Pardon, mais revenons-en dans les moments aussi, je dirais, structurants que nous vivons, et vous l'avez employé tout à l'heure, Alexandre Ben Saïd, historique, c'est ce que je considère, il faut revenir à la base, j'appelais à l'attention que nous rentrons dans un monde de radicalité, être radical, disait Marx, c'est revenir à la racine, alors on va revenir à la racine, et la racine c'est une sorte de gouvernance, c'est même la gouvernance, nous-mêmes nous sommes attachés à la gouvernance, pour nous certes, on sait que la gouvernance mondiale c'est fini, on est maintenant dans des logiques de rapport de force en dehors de nos frontières. Mark Rutte, c'est le secrétaire général de l'OTAN, je le connais bien.
Je le connais bien,
il a été pendant plus de 10 ans le Premier ministre néerlandais. Mark Rutte, il n'a aucune légitimité pour parler au nom du Groenland et du Danemark. Donc Mark Rutte, il a sans doute essayé de parler un petit peu de la façon dont, effectivement, s'il y a un risque, je dis bien si, parce qu'au fond, ce risque, encore une fois, sur le Groenland, on parlait tout à l'heure, le rapport sur la sécurité nationale de novembre 2025, il n'en parlait même pas. Alors, c'est apparu entre novembre 2025 et janvier 2026. Bon, très bien, je ferme la parenthèse. Mais s'il y a vraiment un risque, alors c'est évidemment un territoire de l'OTAN. Donc, c'est évidemment à l'OTAN à s'en préoccuper, avec donc les États-Unis. Mais Mark Rutte n'a aucune légitimité pour aller dire, je fais telle concession territoriale, je dirais à la chypriote, entre les Anglais, on sait que les Anglais ont des bases à Chypre, deux, qui sont...
On n'est pas sûr qu'il l'ait fait.
On n'est même pas sûr qu'il l'ait fait.
C'est juste qu'après cette discussion, Donald Trump a semblé reculer.
Mon sentiment, c'est qu'au fond, il avait déjà pensé qu'il fallait faire un virage sur l'aile. Vous savez pourquoi ? Parce que les marchés, ils n'aiment pas ça. Et les marchés, du reste, ils ont voté. Ils n'écoutent que les marchés.
Les investisseurs.
Et les marchés, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ben, ils ont dit, oulala, qu'est-ce que c'est que cette histoire du Groenland ? Oulala, qu'est-ce que c'est que ces droits de douane supplémentaires ? Et le Dow Jones a commencé à s'effondrer. Le soir même où il y a, finalement, nous avons trouvé un accord. Encore une fois, un accord qui est tombé du ciel, parce que ni l'un ni l'autre n'ont la légitimité pour négocier cet accord. Eh bien, à l'instant même, tenez-vous bien, le Dow Jones prend 6%. C'est énorme, évidemment. Donc voilà, c'est ça qui fait plier Donald Trump. Alors pour nous, Européens, continuons à parler, laisser faire, mais avançons ensemble, unis que jamais. Et si vous voulez, je voudrais finir sur un point, parce que j'entends se satisfaire, on dit c'est formidable, l'Europe a été unie, regardez comme elle est forte. Moi, je connais trop ça pour savoir, c'est vrai, mais c'est un petit pas qu'on a fait ensemble. Et vous savez, quand l'Europe fait un petit pas... Très souvent, vous avez beaucoup de pays européens, ou du reste de fonctionnaires européens, ou de diplomates européens, qui disent « Ouf, allez, on arrête un peu ». Non, il faut continuer. Il ne faut pas se satisfaire de ce qui s'est passé. Il ne faut pas se congratuler. Ce qu'on a fait était juste légitime. Nous n'avons pas laissé quiconque, y compris les États-Unis d'Amérique, y compris notre allié au sein de l'OTAN le plus important, faire n'importe quoi sur nos territoires.
Thierry Breton, avant de parler de l'Europe et de ce que doit faire l'Europe, encore une question, je vous ramène encore à Davos. Il s'est passé quand même certaines choses. On a entendu le discours du Premier ministre canadien, Mark Carney, qui appelle les puissances moyennes à faire une alliance. On a vu, là il n'y a pas de son, mais on a vu, ça a été dit, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, qui a quitté un dîner parce que le secrétaire d'État au commerce américain faisait un réquisitoire anti-européen. C'est pas le genre de Christine Lagarde de faire ce genre de choses, de claquer une porte. Est-ce que pour vous, il n'y a pas un petit goût, un an après le retour de Trump à la Maison-Blanche, de réveil ?
Madame Betsaïd, je ne critique pas ceux qui vont à Davos, j'y suis allé souvent. J'étais invité cette année, j'ai décidé de ne pas y aller. Parce que j'en vais anticiper ce qui s'y passerait. Et j'ai pas voulu assister, précisément, et être là.
Mais
et
alors donc, pour vous, il y a plus une humiliation.
Je vais aller au bout. Ouais. Et donc je n'ai pas souhaité y aller. Personne ne me force, je ne fais de leçons à personne, mais je n'ai pas souhaité y aller. Monsieur McCarney a fait un discours formidable, qui va rester. mais je constate qu'il est parti. Moi, je reconnais qu'un certain nombre de chefs d'entreprise se sont levés, Christine Lagarde aussi, parce que c'est absolument intolérable de se faire insulter. J'ai constaté comme vous que le lendemain, beaucoup d'entre eux étaient de nouveau au premier rang à applaudir M. Trump. Eh bien, c'est pas ça la résistance.
Est-ce que vous êtes toujours interdit de séjour aux États-Unis ?
Que je sache, oui, mais je ne peux pas vous en dire plus car je n'ai pas demandé de visa.
Vous n'avez pas demandé.
Mais je pense que oui.
Parce que Roland Lescure, ministre de l'économie, sur ce plateau, à ce micro, nous a dit « Je vais en parler à Scott Bessent, son homologue, que le Parlement européen viennent de faire un petit communiqué. Donc,
vous savez, Madame Bessent, j'étais très... Bon, rien vous cacher, je ne m'y attendais pas, mais enfin bon, c'est tombé un 24 décembre. Généralement, on s'attend à autre chose le 24 décembre. Moi, ça a été cette information. Très bien. En revanche, ce qui s'est passé après, mais j'ai été submergé de messages d'Europe, des milliers de messages de citoyens, d'hommes politiques, de partis politiques, tous les partis politiques, enfin tous... ont émis, je dirais, leur indignation, au-delà de ma personne, parce que c'est pas ma personne dont
il
s'agit.
Le groupe de Giorgia Meloni n'a pas signé le communiqué.
Alors je vais y revenir. C'est au-delà de ma personne, bien entendu, c'est les Européens, c'est l'Europe dont il s'agit, là encore. De même qu'il faut défendre son intégrité territoriale, il faut défendre les lois qu'on vote. On m'a puni parce que j'avais fait mon travail de commissaire pour tout simplement faire en sorte que dans l'espace informationnel, on mette un certain nombre de règles pour protéger nos enfants, on en parlera peut-être tout à l'heure, pour protéger nos démocraties, pour protéger nos concitoyens. Et c'est la raison pour laquelle on m'a puni, parce que ça ne plaisait pas, peut-être, à un certain nombre de grands acteurs de la tech américaine. Jean-Luc Mélenchon, le Parti Socialiste a fait un communiqué, bien entendu les partis de centre-droit, Bruno Retailleau avec les Républicains, ils ont tous fait un communiqué, vous parlez. Bon, ça s'est arrêté là. Bon, j'ai vu que M. Chenu a dit quelques mots, je le remercie, mais enfin en même temps, deux de ses députés, Mme Geron et Mme Griset, ont été très délicates en indiquant qu'elles trouvaient que Trump avait été très gentil avec moi, parce que faire ça un an et demi après mon départ, vraiment, il aurait dû le faire avant. Bon, je ferme la parenthèse. Mais donc, derrière, effectivement, il y a surtout le fait que le Parlement européen a pris une résolution, il y a trois jours, pour indiquer qu'il était tout à fait, non seulement anormal, mais c'est totalement injustifié qu'un commissaire dans l'exercice de ses fonctions soit puni de cette façon, donc je le remercie. C'est une sorte d'union sacrée qui s'est produite, d'union sacrée, parce que tous les partis ont soutenu, sauf le parti d'extrême droite, c'est-à-dire le parti dans lequel siègent Mme Gnafo et les députés de Mme Alice Weidel, c'est-à-dire l'Alternative for Deutschland, c'est-à-dire le parti d'extrême droite, ils n'ont pas voté pour, et les soutiens de Mme Meloni. Bon, très bien, je ne demande rien, j'ai juste constaté que tous les autres ont soutenu. Et finalement, ça dit quoi ? Ben, ça dit simplement qu'au-delà des divisions que nous avons, au-delà des différences, et elles sont nombreuses bien entendu, quand on touche vraiment à ce qui est le plus important pour nous, c'est-à-dire notre autonomie, notre indépendance, les valeurs qui nous unissent, le respect de nos démocraties, au-delà des différences, eh bien vous avez une très large majorité qui se lève. Et je pense qu'il faut avoir ça en tête, y compris pour les prochaines élections
présidentielles. Justement, le réveil de l'Europe. Question d'Alix Bouyagué.
On vous entend ce matin dénoncer la logique impériale de Donald Trump, mais finalement, est-ce que Donald Trump n'est pas le meilleur ami de l'Union européenne ? Est-ce qu'il ne pousse pas l'Europe à s'organiser, à avoir plus d'autonomie ? Est-ce qu'il ne faut pas, après tout, lui dire un peu merci ?
Madame Bouyagué, certainement pas. Et si jamais on en est arrivé au stade, où il faut attendre de se faire insulter, humilier, vassaliser pour réagir, alors je suis très inquiet pour l'Europe.
Mais il y a quand même eu des réactions, Thierry Breton.
Madame Bouyagué, bien sûr qu'il y a eu des réactions, mais il ne vous a pas échappé, puisque vous avez travaillé, je crois, sur mon parcours, que lorsque j'étais commissaire européen, j'ai été l'un des fervents défenseurs, parce que j'estimais que c'était mon devoir vis-à-vis de l'intérêt général européen, pour lequel je me battais, de la souveraineté européenne, de l'autonomie européenne, pour les vaccins,
pour les semi-conducteurs. Mais est-ce que là, il n'y a pas des petits pas qui sont faits ? Vous dites, madame, effectivement, c'est des petits pas qu'on fait ensemble, il faut aller plus loin. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vient de s'enclencher quand même face à Donald Trump ?
J'entends bien ce que vous dites, et je ne l'entends pas uniquement de votre bouche. Je dis simplement que ça vient de plus loin. Et qu'il faut vraiment que nous-mêmes, bien sûr, on peut toujours dire qu'il y a un électrochoc formidable. Vous savez, quand un patient est dans un état difficile, on lui fait des fois des électrochocs pour le réveiller. Ben, j'espère qu'on n'en est pas là. Et donc, ce que je veux dire par là, moi...
Faire quoi de plus ?
Eh bien, il faut vraiment travailler ensemble, tout de suite, tout à fait cessante. C'est ce que j'ai fait. Je vous ai dit tout à l'heure que des milliers de personnes se sont manifestées. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais? On a créé des petits groupes de travail pour voir, vous avez, j'ai la portée là, on a fait maintenant 10 programmes pour faire en sorte que l'Europe, en 5 ans, madame, puisse retrouver sa souveraineté.
Alors, on va essayer d'aller sur les solutions, mais sur le constat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour nous? Est-ce que c'est, au fond, l'agressivité américaine ou c'est la compétitivité chinoise? On voit, au fond, qu'une bonne partie de notre industrie est absolument mangée par les Chinois. Énormément de produits viennent des Chinois. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la Chine?
Mais Madame Fressoz, je crois qu'on oublie un troisième personnage, c'est Vladimir Poutine. Donc, je dirais que c'est comme en politique. Vous savez, souvent, la politique, c'est pas « où », c'est « et ». Il faut « et » gérer désormais le fait que Donald Trump a déclaré la guerre, non pas à l'Europe, mais à nos institutions européennes. Certains s'interrogent, est-ce que c'est nos alliés, est-ce que c'est pas nos alliés? C'est clair. Le document de sécurité nationale dit qu'il veut la fin de nos institutions européennes et donc la fin de l'Europe. Dont acte. Vladimir Poutine dit quoi? Dit qu'il veut revenir aux empires d'antan, et notamment à l'empire soviétique, et qu'il veut reconquérir une partie des parties russophones des anciennes républiques soviétiques. Bien entendu, en Géorgie, en Moldavie. On le voit évidemment en Ukraine. C'est pour ça qu'il est tellement important de résister en Ukraine pour contenir ses ambitions. On le voit en Lettonie. On le voit en Estonie. Et quant à Xi Jinping, il veut tout simplement faire en sorte que la Chine, qui devient un empire industriel, continue sa prédation sur l'Europe. Donc voilà, il faut maintenant, c'est pour ça que je vous dis, si jamais il faut qu'on se dise, ben, il fallait qu'on ait un déclic, ben, le déclic, il est là. Et donc, il est temps maintenant, bien sûr, de continuer à gérer comme on peut et comme on le sent, en faisant, et vous le voyez bien au fond, au cours de notre discussion, qu'est-ce qu'on retient? On retient que l'époque bénie, je dis bien bénie, où les relations internationales étaient régies par des lois que l'on respectait, est derrière nous, mais et qu'on est rentré dans un monde de la brutalité des rapports de force.
Tout est acheté chez Donald Trump, il a fêté ses 1 an de mandat, vous lui donnez aucun bon point, aucune décision positive?
Mais je n'ai pas, moi, à dire si c'est bien ou si c'est mal, ni pour lui, ni pour Vladimir Poutine, ni pour Xi Jinping. Il est là, il est élu par les États-Unis d'Amérique, il est élu par les Américains. Je vous ai dit que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie aux États-Unis, j'ai dirigé des entreprises, j'y ai enseigné, je connais bien ce pays. Il représente aussi une partie de ce qui est devenu ce pays. Et je vais aller plus loin. Je ne suis pas de ceux qui pensent que lorsqu'il ne sera plus là, ça arrivera un jour, ça nous arrivera à tous.
Vous dites que c'est là pas pour durer.
Je dis là que c'est là pour durer.
Mais pourquoi? Parce que c'est profondément dans le peuple américain.
Pour deux raisons, Madame Fressoz. D'abord, parce que pour deux raisons, là, si vous le permettez. La première raison, c'est que ça représente une aspiration profonde d'isolationnisme du peuple américain et un changement de logiciel qui a régi le monde au cours des 70 dernières années.
Barack Obama,
vous avez parfaitement raison de le dire. Biden l'a continué. J'étais l'Inflation Reduction Act. Hein, j'ai dû le gérer et j'ai montré mon mécontentement. J'ai pas voulu aller du reste aux réunions aux États-Unis où on en parlait. Ça, c'est la première raison. Mais il y en a une seconde. C'est le monde de la radicalité. Je me permets peut-être de dire aussi que s'il y a un autre mot à retenir peut-être ce matin, c'est radicalité.
On est rentré
dans un monde de la radicalité. Et justement, dans la radicalité, c'est vrai aussi aux États-Unis d'Amérique. Regardez ce qui se passe dans les rues, regardez ce qui se passe évidemment à Minneapolis ou ailleurs. Mais derrière, bien sûr que certains appellent de leur vœu qu'aux élections de mid-term qui auront lieu en novembre, il y a un changement de majorité, notamment pour la Chambre des représentants. On verra. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans un cas comme dans l'autre, même si les démocrates y reviendront un moment, un jour, on l'espère en tout cas, c'est le check and balances, c'est le fait que, effectivement, c'est une grande démocratie, un jour c'est républicain, le lendemain c'est démocrate. Les démocrates ne pourront pas revenir comme ça en arrière, pour deux raisons. La première, c'est parce que, encore une fois, beaucoup des électeurs auront voulu ça, ils vont être très attentifs. Et puis la seconde, c'est parce que si on s'amuse maintenant à mettre en prison tous ses prédécesseurs, ce qui est du reste le cas, ce que veut faire Donald Trump, ce que peut-être voudront faire les démocrates, alors on est rentré dans un monde un peu post-démocratique. Je ne dis pas qu'on est rentré encore dans ce monde-là, aux États-Unis, mais je pense qu'on est rentré dans un monde de la radicalité. En tout cas, mieux vaut nous y préparer.
Alors,
et puis si on a une bonne nouvelle, tant mieux.
Allez, comment? On passe aux solutions. Je crois que là, on a bien fait le constat. Vous dites qu'on est dans un monde de la radicalité, il va falloir être fort à la maison. Quelles cartes avons-nous en main? Par quoi ça passe? C'est-à-dire, il y a à la fois des l'indépendance, il y a, on a peut-être des instruments, on va en parler. Par quoi ça commence de résister quand on est l'Europe aujourd'hui ?
Eh bien, encore une fois, de faire une liste des dépendances. Moi, je les ai listées, il y en a 10. Dans la finance, par exemple, c'est intolérable qu'on passe par Visa, Mastercard. Dans l'espace, on est trop dépendant des lanceurs. Dans les matériaux critiques, dans la deep tech, dans évidemment tout ce qui concerne les réseaux sociaux, dans ce qui concerne l'énergie, il faut évidemment développer plus notre autonomie, en particulier dans le nucléaire. Dans le cloud, nos téléspectateurs et nos auditeurs voient bien ce que je veux dire, dans les semi-conducteurs et dans la défense. On a listé 10 chantiers. Du reste, ils avaient déjà été évoqués, pas détaillés, mais évoqués dans le rapport Draghi. Moi, j'ai voulu reprendre avec toutes celles et tous ceux qui travaillaient avec moi, donc ces chantiers, pour les remettre au goût du jour. Le rapport Draghi, il a été fait en 2023. Nous sommes aujourd'hui en 2026, après un an de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc, on a voulu remettre tout ça au goût du jour. On a chiffré ce qu'il fallait faire. Puis, vous savez, dans des cas aussi critiques que ceux que nous vivons, moi, j'ai l'expérience de redressement de situation impossible. Ça a été ma vie. Eh bien, j'en ai tiré une leçon. Que ce soit, du reste, dans des entreprises, pour l'État, en Europe, il faut le faire dans une durée de temps limitée. 5 ans, c'est l'horizon qu'il faut se fixer. Et donc, c'est un programme à 5 ans. Et en 5 ans, oui, il faut s'en donner les moyens, mais je pense que c'est possible.
L'Union à 27, c'est une union quand même très diverse. Certains ont une industrie automobile, d'autres pas. Certains sont très attachés à la souveraineté, d'autres pas. Comment on peut résister à Donald Trump dans ces conditions-là ? Est-ce qu'on n'est pas au fond extrêmement faible parce qu'on est divers, parce qu'on est attaché à la démocratie, parce qu'on est attaché au débat et parce qu'on se dit finalement tout va très lentement dans les décisions qu'on prend ?
Et Madame Fressouz, l'Union européenne, telle que vous la décrivez, c'est notre projet de reconstruction, de réinvention d'une Europe qui a été parcourue par des guerres abominables au XXe siècle. Et à partir de 1945, 1948, 1949...
Et ça, c'est le grand projet d'après 1945.
Peut-être.
Maintenant, qu'est-ce qui reste ?
Et donc, il reste tout simplement cette construction, qui est une construction de paix, qui est une construction avec une gouvernance. Et j'y reviens. Vous savez, la gouvernance, c'est un de mes sujets favoris. Je l'ai enseigné, du reste, dans des universités américaines. La gouvernance, elle a été bien faite. Moi, je suis de ceux qui le disent, par ceux qui ont les pères de l'Europe.
Donc, ça veut dire que vous gardez la commission ?
Mais je dis d'abord qu'on est dans une tempête. Et que donc, dans une tempête, il faut des capitaines qui tiennent la barre. Aujourd'hui, je le dis, c'est pas moi qui le dis.
Elle tient la barre, Ursula von der Leyen ?
Mais voilà, j'entends ce que vous dites, et tous les observateurs que vous êtes, Madame Bouillaguet, vous en faites l'écho ce matin à notre micro, considèrent que nos institutions n'ont jamais été aussi faibles. Et en particulier la commission.
C'est votre constat, Thierry Breton.
Quand vous me posez la question, je vois bien la réponse que vous avez en tête. C'est pas la mienne, c'est celle évidemment, je veux dire, et c'est pas la question. La question, c'est que nous avons aujourd'hui, je dirais, des institutions et qu'il faut de la force à la tête de ces institutions. Enfin, tout le monde a vu cette image sur le golfe de Triboro, pouce levé pour accepter cette humiliation.
Il faut mettre, donner un peu de contexte. Là, vous parlez de Ursula von der Leyen, qui va voir Donald Trump, les droits de douane. Bon, mine de rien, 15%. Elle a obtenu 15%. Les meilleurs alliés, le Royaume-Uni a obtenu 10. Est-ce que c'était franchement une défaite ?
Les Canadiens ont obtenu 4 et les Mexicains 3. Voilà. Parce que vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des rapports
faible,
de force.
La commission est faible. Ursula von der Leyen doit démissionner ?
Non, ça ne m'appartient pas de le dire. Ce que je veux dire, c'est que nous avons des rendez-vous institutionnels en 2027. La présidente du Parlement va remettre son mandat en jeu, puisque c'est des mandats de 2 ans et demi. Le président du Conseil européen, c'est la 3e institution, Antonio Costa, va remettre son mandat en jeu, c'est 2 ans et demi. Donc on a un moment.
La commission, c'est 2029.
La commission, c'est 5 ans. On a un moment, après ça, il appartiendra encore une fois à ceux qui sont en charge de faire fonctionner
donc
nos institutions.
Donc vous plutôt s'appuyer sur le Parlement européen.
Oui, bien sûr, et à ceux qui sont... Vous avez parfaitement raison, parce que ceux qui sont en charge aujourd'hui, c'est à eux de dire si, au fond, le monde de 2027, c'est le monde de 2024, lorsque les 3 leaders à la tête de nos institutions ont été nommés ou élus, et puis si jamais ils estiment qu'il faut changer, on peut remettre très bien les mandats de chacun, et puis on verra bien. Mais je pense qu'il ne faut pas rater ce moment de 2027, où 2 de nos 3 institutions, peut-être la 3e du reste, vont remettre leur mandat en jeu, parce que, non pas encore une fois pour eux.
Ursula von der Leyen à remettre son mandat en jeu. Vous publiez un article dans Le Grand Continent, vous êtes assez clair là-dessus. Vous dites que ça serait tout à son honneur de rendre.
J'ai dit très précisément que dans ce contexte-là, puisque nous en avons 2 sur 3 qui vont remettre leur mandat en jeu, elle s'honorerait à être la 3e. Mais maintenant, elle décidera ce qu'elle veut. Et puis vous savez, c'est aux députés, et Mme Fressouz, vous avez raison, c'est les députés qui auront encore une fois fois la clé. C'est eux aujourd'hui qui ont décidé de faire en sorte que l'accord du Mercosur soit renvoyé à la Cour européenne de justice. On pourra en parler si vous le souhaitez. C'est les députés qui ont décidé de dire que ce fameux accord de Triboro, Madame Ben Saïd, qui a été vécu par beaucoup d'Européens comme une humiliation, ne soit pas proposé au vote des parlementaires. C'est les députés qui vont être la Chambre, effectivement. Ils représentent 450 millions de concitoyens. La Chambre peut-être de la résistance et du renouveau.
Question quand même. Jusqu'à présent, le Parlement européen est reposé sur une alliance entre les sociaux-démocrates et les démocrates chrétiens. Est-ce qu'il faut changer, au fond, d'alliance pour aller vers une Europe plus protectionniste, plus souverainiste? Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus?
Mais moi, je vais vous dire, je regarde le sondage, puisque vous parliez, Mme Ben Saïd, tout à l'heure, du Grand Continent. Il a fait un sondage qui a été rendu public il y a deux ou trois jours, et qui indique que pour 53% des Européens, ils estiment que dans les prochaines élections auxquelles ils seront confrontés, les Européens sont toujours confrontés à des élections, il faudra choisir quelqu'un qui puisse tenir tête à Donald Trump, parce qu'il est néfaste pour l'Europe et pour leur pays.
J'ai l'impression que vous êtes candidat, en fait.
Non,
vous écoutant
50,
dire cela...
C'est 56% en France, c'est 58% en Espagne. Et voyez-vous, quand on s'intéresse, effectivement, comme moi, à l'Europe, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'Europe sans France, mais je crois aussi qu'il n'y a pas de France sans Europe. Eh bien ce message-là, Madame Fraisse, pour répondre à votre question, à titre tout à fait personnel, et malgré moi, j'en ai été le témoin, puisque au fond, vous avez des partis aussi diverses que les partis de droite, de centre, de gauche, les Verts, l'extrême gauche, qui ont voté pour un soutien total à mon cas personnel. Donc vous voyez, on est peut-être dans une sorte d'union sacrée, parce que moi je crois que c'est un peu, il faut mettre les mots, il ne s'agit pas d'une union des droites, des gauches ou quoi, une union sacrée, parce que le moment est un moment existentiel pour nous, et il y aura ceux. Et on le voit bien du reste. Qu'est-ce qu'il dit, Donald Trump ? Il dit, je vais m'appuyer sur les partis d'extrême droite en Europe pour précisément vassaliser l'Europe. C'est-à-dire, les partis d'extrême droite, on les connaît en France, hein, y en a deux. On les connaît en Allemagne avec l'AFD, on les connaît au Portugal, on les connaît en Espagne, on les connaît en Hongrie. Il dit, je vais m'appuyer sur eux. Parce que ça va être... Donc il y aura d'un côté ceux qui vont effectivement accepter d'être les partis qui vont permettre cette vassalisation. Et puis il y aura les autres qui diront, pendant un moment, il faut se retresser les manches. Il faut les redresser.
Vous pensez que ces partis peuvent vous rejoindre?
Mais je ne sais pas.
Pour une union sacrée.
C'est pas me rejoindre, c'est tout simplement dire comme ils l'ont dit encore une fois à Davos, comme ils l'ont dit au Parlement il y a deux jours, stop, travaillons ensemble, et puis regagnons notre autonomie, notre indépendance, pour pouvoir continuer à être la démocratie que nous voulons rester.
On vous entend, vous avez dit, il n'y a pas d'Europe sans France. La fin prochaine du mandat d'Emmanuel Macron est vraiment dans toutes les têtes, et y compris beaucoup dans celle de Donald Trump, qui s'est chargé de lui rappeler à Davos, mais aussi dans celle du chancelier Merz, qui se rapproche de Giorgia Meloni, l'italienne. Est-ce que vous êtes inquiet, et qui, justement, peut incarner ce leadership en Europe après 2027?
Eh bien, dans votre question, il y a évidemment le poids de la France qui est en question. Et je suis de ceux qui disent, et qui le regrettent du reste, nous avons besoin de la parole de la France. On est un très grand pays. On a un siège permanent.
Il a bien géré, Emmanuel Macron.
Mais bien entendu qu'il a bien géré. Du reste, moi j'aurais apprécié que quand il s'est fait encore une fois de plus insulter par Donald Trump, je trouve ça tout à fait inacceptable, et personnellement je ne serais pas resté dans la salle en écoutant ce qu'il a dit. Mais parce que vraiment, c'est pas ça les relations internationales. Bien sûr qu'il a bien géré, mais pour qu'on pèse, et je le dis vraiment pour l'avoir vécu, j'ai maintenant une longue expérience, pour qu'on pèse à Bruxelles, il faut qu'on respecte ses engagements. Or, la France, depuis 2013, ne respecte plus un seul de ses engagements à Bruxelles.
Ça va nous mener
au
budget.
Je pense en particulier au budget et au déficit. Comment voulez-vous que l'on fasse la morale quand on est le dernier élève de la classe? Généralement, on n'est pas le délégué de la classe.
Thierry Breton, une question de politique encore sur cette architecture européenne, et puis on passe au budget. Ce matin, dans le journal du dimanche, voici ce que dit Jordan Bardella. La France doit défendre une nouvelle architecture européenne qui remette au centre les souverainetés nationales. Le président du RN, il appelle cela l'Europe des nations. Est-ce que ça peut trouver un écho dans votre projet?
La première partie, oui, je suis heureux qu'ils rejoignent précisément, je suis très heureux, qu'ils rejoignent Parce qu'on a compris qu'il y avait quand même des circonvolutions. Encore une fois, je comprends tout et je ne veux pas ce matin m'amuser au petit jeu des phrases qui ont été dites. Tout le monde les a en tête, tout le monde a en tête les phrases qui ont été dites et pour soutenir Poutine à une période et pour soutenir Trump. Ces départs.
Vous trouvez qu'il y a un virage sur l'aile, là,
c'est une évidence. Enfin voilà, c'est pas la peine, c'est pas moi qui vais le dire. Bon, mais à la limite.
Si vous l'avez dit, c'est une question politique.
Mieux vaut tard que jamais. Et si jamais il se rend compte qu'il faut une Europe et qu'il faut une Europe puissance,
c'est très ambigu, hein. Et
eh bien voilà, Madame Fessot.
Architecture européenne et en même temps souveraineté nationale.
Alors, en même temps qu'ils ont tellement critiqué, il ne faut pas la réappliquer là. Moi, je dis uniquement, il dit effectivement, on comprend cet embarras. Quand on est aujourd'hui autant désigné comme le parti pour pouvoir faire tomber l'Europe par l'administration Trump, par M. Steve Miller, par M. J.D. Vance, en disant que c'est eux qui vont sauver l'Europe. Sauver l'Europe, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'affaiblir et la tuer. Bon, bah, je comprends qu'on soit mal à l'aise. Mais il ne faut pas que les électeurs se trompent. Le vrai sujet, il va se poser là. Il y a ceux qui vont se dire, on résiste, on avance. Et puis il y a ceux qui serviront, non pas de marchepied, mais de dernier échelon pour une vassalisation absolue de l'Europe, et notamment par les États-Unis. C'est écrit noir sur blanc dans le document sur la sécurité nationale de novembre 2025 américaine.
Thierry Breton, vous avez commencé à en parler. Le budget, la France n'a jamais été aussi proche d'avoir un projet de loi de finances.
Le Parlement ne pouvant pas prendre sa responsabilité jusqu'au bout que de donner un budget à la nation à cause malheureusement d'agissements sur différents groupes liés à l'action politique de différents groupes politiques ici qui devront en rendre compte devant les Françaises et les Français et devant l'histoire. Le gouvernement engage sa responsabilité sur la partie 1 des recettes du projet de loi de finances pour 2026. Je vous remercie.
On vient d'entendre donc Sébastien Lecornu utiliser le 49-3 alors que le Premier ministre a promis sur le perron de Matignon de ne pas le faire. Est-ce que ce n'est pas d'une part ravageur pour la crédibilité de la parole publique? Et est-ce qu'on peut aussi se poser de la question de savoir si Sébastien Lecornu a été aussi habile que ça? Il a cédé beaucoup aux socialistes et puis il finit par un 49-3.
Vous savez, dans les moments là aussi singuliers que nous vivons, voilà, bien sûr, l'habileté, c'est important, mais ce dont on a besoin, c'est d'avoir des caps, c'est d'avoir des visions, c'est sincèrement d'incarner un leadership. Et puis surtout, je vais vous le dire là aussi avec mes mots, j'ai écrit un livre au cours des années qui se sont écoulées qui s'appelle « Les 10 renoncements qui ont fait la France ». J'ai voulu m'interroger les moments où la France a renoncé, parce que j'estime que nous sommes dans un moment où la France renonce, et en particulier sur les aspects budgétaires. Et j'ai voulu m'interroger en faisant référence à d'autres grands moments de notre histoire où nous avons renoncé, non pas pour définir, pour dire que la France, c'est aussi ça, parce que c'est aussi ça la France, à côté évidemment des grandes heures que nous connaissons tous, mais pour essayer d'en tirer la leçon. Comment on en arrive là et comment on rebondit?
Mais juste là, vous êtes en train de dire que Sébastien Lecornu n'a ni cap, ni vision, ni leadership.
Et je vais vous dire ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, pour être beaucoup plus précis, je suis en train de vous dire que, à la fin, c'est le budget qu'on regarde. On a un budget où on continue à être à 5% de déficit, c'est-à-dire le plus mauvais élève de la classe européenne. C'est 5% pour nos téléspectateurs, hein. C'est juste quand même 160 milliards donc, de trous, c'est-à-dire de dettes en plus. On a donc plus de dettes, on a plus de dépenses publiques, on a plus d'impôts, on a plus de taux d'intérêt à payer. Est-ce que c'est le budget dont la France a besoin aujourd'hui? La réponse est non.
Mais peut-être Françoise. Est-ce qu'elle pouvait avoir un autre budget?
Eh bien, personne ne le saura, ça s'appelle une uchronie, ça, en histoire, madame.
Voilà. Mais est-ce que la leçon, c'est qu'au fond, les Français, mais des chefs d'entreprise jusqu'aux particuliers, ne sont pas complètement dopés à la dépense publique et à
l'endettement? Non, je ne crois pas. Je crois que les chefs d'entreprise, pour beaucoup d'entre eux, j'en ai été un, je les connais très très bien.
Il y en a beaucoup qui plaident pour garder les allègements de charges.
Bien sûr, mais à un moment, vous savez, les chefs d'entreprise, comme les Français, je ne le dis pas, et encore une fois, je rends hommage évidemment aux députés qui ont travaillé nuit et jour pour essayer d'avoir ce budget qui vient d'être annoncé, selon les modalités que vous venez de rappeler. Mais vous savez, les chefs d'entreprise comme les Français, je vais vous dire sincèrement, ils ne regardaient plus ce qui se passait à l'Assemblée. Ils en avaient juste assez. Ils ne savaient pas, un jour on disait quelque chose, le lendemain le contraire. Donc oui, bien sûr, il vaut certainement mieux que ce soit derrière nous, mais le prix à payer est très cher.
Une dernière question, Thierry Breton. Vous qui avez été à la tête de ceux qui ont écrit la régulation européenne sur le numérique, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le texte arrive à l'Assemblée nationale demain. Il est défendu par le gouvernement et le groupe Renaissance. Interdire tout simplement TikTok, Snapchat, Instagram, est-ce que c'est la meilleure solution pour les moins de 15 ans?
D'abord, je voudrais ici rendre hommage à la députée qui porte le texte, qui s'appelle
Madame Miller.
Laure Miller, qui fait un travail absolument remarquable. Et c'est un combat, et elle a raison de le mener, parce que ce qui se passe sur nos réseaux, c'est un combat que j'ai mené, moi. C'est un combat absolument existentiel, lui aussi, pour, bien sûr, nos enfants, et c'est ce qui l'intéresse au plus haut lieu, comme beaucoup d'entre nous, hein, quand on passe 4h30 par jour sur les réseaux, mais aussi pour notre démocratie, y compris à la veille des élections essentielles, pas uniquement en France, hein, dans 9 pays européens qui vont avoir lieu en 2027.
Mais l'interdiction.
Donc, sur l'interdiction, il y a deux choses. Il y a d'abord, effectivement, la règle, le DSA, c'est le texte que je connais bien, que j'ai porté, mais qui a été, encore une fois, voté à 90% par les députés européens, à 100% des États membres.
Digital Services Act.
Qui donne une architecture donc global pour les très très grandes plateformes, donc celles dont vous venez de parler, par exemple c'est X, par exemple c'est Meta, par exemple c'est Snapchat, ça c'est des plateformes, évidemment TikTok, donc des obligations particulières pour encore une fois préserver ce qui est très important pour nous, c'est-à-dire la garantie qu'il n'y aura pas des déviances délétères sur ces réseaux et que nos démocraties seront préservées. Tout en préservant, et je le redis, la liberté de parole. Bon, alors maintenant, il y avait la volonté de le faire déjà depuis un an. Le Conseil d'État avait...
De faire cette interdiction.
Cette interdiction, c'était pas conforme, sans doute, à notre Constitution, dans certains aspects, ni du reste à la réglementation européenne qui s'impose. Je crois que désormais, les députés ont trouvé un chemin, donc qui est un chemin qui sera positif. Donc personnellement, j'encourage, mais je voudrais juste dire une chose. C'est que derrière ça, c'est donc quelque part un permis de conduire qu'on va donner. Bon, en Europe, il n'y a pas de date précise, ni pour les permis de conduire, ni pour le droit de vote. On peut aller voter à 21 ans quelque part, à 18 ans de l'autre côté. Mais si on donne ce permis de conduire, alors il faut impérativement, bah, quand on dit permis de conduire, bah, il faut apprendre, il faut passer le code. Il faut absolument qu'à l'éducation nationale... À l'éducation nationale, lorsque j'étais commissaire.
Chez les parents aussi, peut-être.
Chez les parents, mais aussi à l'éducation nationale. Les parents, c'est compliqué. Beaucoup d'entre nous ont été, ou sont parents, sont grands-parents. C'est très compliqué, encore une fois, d'être derrière les enfants. Le rôle aussi de l'éducation nationale, c'est d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, d'apprendre à compter, d'apprendre aussi à être civil, mais aussi d'apprendre à être un citoyen dans ces réseaux sociaux, avec tout ce que ça comporte.
Mais d'un mot, Thierry Breton, donc vous pensez que là, il y a un chemin législatif, vous dites que c'est bien, mais est-ce que c'est interdire, c'est possible ?
On peut couper ? Non, pas couper, mais il y aura, si j'ai bien compris le texte, mais je ne suis pas encore une fois l'auteur de ce texte. En tout cas, le cheminement qui me semble être pris, c'est plus, encore une fois, d'interdire, c'est de dire qu'effectivement, donc aux plateformes, c'est à elles à veiller à ce que le fait qu'en dessous de 15 ans, il y ait certaines plateformes, mais pas toutes, hein, certaines plateformes qui ne puissent pas être autorisées, eh bien c'est à elles de proposer les solutions. Et là, on respecte la règle du DSA, notamment dans son article 28. Mais puisque vous me donnez la parole sur cette question en un mot, je voudrais dire que cette régulation, elle est très importante, elle a été votée, elle est là pour être mise en œuvre, et que beaucoup estiment qu'aujourd'hui, et on voit ce qui se passe sur TikTok, on voit ce qui se passe sur X, pour en citer quelques-uns, beaucoup estiment qu'il y a des sujets, je ne suis plus commissaire, donc je ne peux pas en juger moi-même, je ne suis plus qu'un utilisateur, donc je le constate, eh bien cette régulation, elle est faite pour être utilisée, non pas contre un pays, non pas contre une entreprise, mais pour nos enfants, pour nos concitoyens, pour nous en Europe.
Thierry Breton, vous êtes l'invité de Questions Politiques et on va tenter de mieux vous connaître aujourd'hui.
France Inter. Alexandra Ben Saïd. Questions Politiques.
Grâce aux questions d'Alix Bouyagué, notre spécialiste des biographies et des archives. Et tiens, Alix a remonté un extrait de Questions Politiques de septembre 2024.
C'est Ursula von der Leyen ou c'est Elon Musk qui a eu votre peau ?
Mais c'est personne qui a eu ma peau, c'est moi qui ai démissionné.
Oui.
Voilà, parce que j'ai estimé que je devais le faire. Voilà. Bon, alors le contexte, il a été rappelé et je ne suis dupe de rien.
Il vous dit maintenant, bon voyage quand même, hein, il y a eu un échange de tweets.
Et on a, avec un petit peu d'humour, je lui ai dit, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il trace un ticket sur Mars ? Parce que je vais peut-être pouvoir aller réguler sur Mars. L'humour n'est pas interdit, surtout quand on utilise les réseaux sociaux.
Le 16 septembre 2024, un mois et demi avant la fin de votre mandat et en plein processus de renouvellement, vous estomaquez tout le monde en démissionnant de votre poste de commissaire européen au marché intérieur. Le geste n'est pas sans panache, mais dans les faits, vous démissionnez sous la contrainte, la pression d'Ursula von der Leyen. Le deal est clair, soit vous restez le candidat de la France mais avec un poste au périmètre réduit, soit c'est Stéphane Séjourné qui prend votre place avec un portefeuille étoffé. Est-ce que vous en voulez à Emmanuel Macron d'avoir changé d'avis et de ne pas vous avoir imposé?
Non, absolument pas. C'est juste corriger une seconde. Lorsque, effectivement, j'ai ces discussions avec le président de la République et qu'il m'annonce ce que vous venez de dire de façon très exacte, donc vous l'avez dit très précisément, c'est-à-dire ou bien elle me dit, ou bien vous restez, mais vous aurez un portefeuille plus petit parce qu'elle considère que vous êtes trop puissant, c'est ce qu'il me dit, ou bien alors la France aura un plus petit portefeuille. Il ne me cite pas le nom de celui qui pourrait me remplacer. Et je lui dis très précisément, c'est vous qui décidez, mais c'est la France dont il s'agit, c'est pas moi, moi c'est pas le sujet. Et donc il m'en va voir, etc. Et quand j'ai compris qu'on rentrait sur cette phase de discussion, de négociation, j'ai estimé, madame, vous voyez, j'ai estimé que je ne voulais pas être celui qui puisse précisément servir d'alibi dans une discussion entre un État membre et la Commission, qui, me semble-t-il, n'aurait pas dû avoir lieu. J'ai préféré, pour éviter que la France ait à choisir, j'ai préféré en tirer les conclusions et les conséquences moi-même.
Mais cette manière quand même de claquer la porte avec, fracas, en tout cas ça s'est vu, ça s'est entendu, c'est aussi chimiquement vous. Ceux qui vous côtoient vous décrivent comme imprévisible, puissant, insatiable, énergique, aussi admiré que contesté, génie visionnaire ou roi de la com, c'est ce qu'on dit de vous. Est-ce que votre tempérament, c'est un atout ou ça peut être aussi votre point faible?
Madame, j'ai 70 ans, donc j'ai une vie derrière moi. Il se trouve que j'ai été président de 4 entreprises du CAC 40. C'est très exigeant d'être président d'une entreprise du CAC 40. Ça peut arriver une fois, ça peut arriver deux fois. C'est pas parce qu'on souhaite l'être, hein. C'est les actionnaires qui votent pour vous. Donc si vous élisent une deuxième fois dans une autre entreprise, c'est qu'ils estiment que vous avez bien fait le travail dans la première. Ça peut arriver une troisième fois. Moi, ça m'est arrivé 4 fois. Ça veut donc dire que ceux qui ont décidé de me confier des mandats ont estimé, tout simplement, je n'en tire d'autres conclusions que celles que je vous dis à l'instant, que finalement, quand on me confie un mandat, je réalisais l'objectif. Et je faisais les choses dans l'intérêt général. Si on prend le cas des entreprises, j'ai systématiquement, c'était mon travail, augmenter considérablement la valeur. Tiens, prenez Atos. Prenez Atos, qui est la dernière entreprise que j'ai dirigée. Lorsque on m'appelle, l'entreprise vit une crise de management terrible. On m'appelle en 2011, j'y reste 10 ans. Et en 10 ans, madame, on en fait la première entreprise en matière de supercalculateurs, de serveurs, de data center pour l'intelligence artificielle, de cybersécurité. On multiplie par 7 à 10 la valeur.
Juste un mot sur Atos. Effectivement, vous avez géré cette entreprise française de services numériques pendant 10 ans. Mais après votre départ, c'est vrai que c'est le seul moment presque où vous avez essuyé des critiques.
Mais madame, je vous interromps une seconde. Vous avez parfaitement raison et je me suis posé la question. Parce que on a dit aussi, parce que je vais être très honnête, après ça, on a voulu réécrire l'histoire. Y compris quand j'étais président de Thomson, quand j'étais président de France Télécom. Je rappelle que France Télécom, on a sauvé l'entreprise de façon extraordinaire grâce aux équipes. Mais je me suis posé la question, parce que voyez-vous, il y a une chose que j'assume à 100%. C'est tout ce que je fais pendant le mandat, qui est mon mandat. Mais après, c'est autre chose. Pour Atos...
Donc en clair, vous dites que vous n'avez pas fragilisé ni endetté l'entreprise, c'est que la gestion qui a suivi qui l'a fait.
Je vais aller au-delà. Un an après, sur Atos, c'est l'entreprise, le cours de bourse continue à monter. C'est l'entreprise qui résiste le mieux à la crise du Covid. Un an après, les analystes constatent qu'il y a zéro dette nette. Je dis bien zéro dette. C'est donc une entreprise qui n'est pas fragilisée. Et puis après ça, mes successeurs, mais on n'est pas responsable de ces successeurs, vont décider de faire une acquisition qui va tourner à la catastrophe, vont décider de vouloir séparer l'entreprise en deux, vont changer 5 fois de management. Mais madame, ce n'est pas ma responsabilité, ça. J'assume à 100% ce que j'ai fait. Mais donc, madame Ben Saïd, vous n'assumez pas ce qu'a fait Mme Bécart. Et Mme Bécart
elle était parfaite.
Exactement. Et Mme Bécart n'assume pas ce que vous faites aujourd'hui. Eh bien, voyez-vous, quand je suis à Bercy, je réduis la dette. Quand je m'en vais, la dette explose à nouveau.
On ne va pas refaire tout le dossier
Atos. Mais bon, un point. Madame, juste un point. Je me suis posé la question, pourquoi, au bout de 3 ans, alors que pendant 35 ans, de carrière. Ça n'est, on n'a jamais dit ça. Et j'ai trouvé une solution, une réponse. Elle vaut ce qu'elle vaut. J'ai été attaqué comme jamais par les lobbies lorsque je me suis occupé de la régulation du numérique. Et j'ai eu connaissance de dossiers qui ont été faits, mais c'est normal, c'est la vie politique, je ne me plains pas, sur moi pour essayer de réécrire les histoires et m'affaiblir. Certains du reste, je pense en particulier, ça a été public, comme Google, je ne dis pas que Google était à la manœuvre, on dit... Comment travailler ? How to push back, Commissioner Alors, Breton. Donc voilà, c'est la vie politique.
On entend.
C'est comme ça.
On entend.
Il faut l'accepter.
Allez, une question, Alix. Alix Bouillaguet.
Votre parcours, hein, ingénieur, geek avant l'heure, écrivain, concepteur du Futuroscope, mais on l'a dit, effectivement, grand patron, notamment de Thomson et France Télécom, ministre aussi de l'économie, des finances et de l'industrie en 2005. Et en parallèle de ça, vous menez, paraît-il, une vie totalement ascétique. Vous vous levez à 4 heures. À 5 heures, vous êtes, peut-être, c'était le cas ce matin, sur votre vélo appartement, votre rameur en train d'écouter des cours en ligne sur la physique quantique ou les dernières trouvailles en maths, toute cette énergie, vous allez la placer où dans les mois viennent ? On a entendu, est-ce que vous avez des ambitions politiques ou est-ce que vous avez des ambitions européennes ? Parce qu'il y a quand même un petit poste qui semble se dessiner.
Madame Bouillaguet, vous n'allez pas faire comme Madame Bachelot en me demandant d'où vient toute cette énergie quand même. Non.
Non.
Non, pas vous.
Sur quoi allez-vous focaliser cette énergie ? Est-ce que vous souhaitez aujourd'hui être
D'abord, je me reconnais.
D'abord, je me reconnais. À la tête de la Commission européenne,
je le dis,
ou jouer un rôle dans la présidentielle de 2027.
Je le dis, je me reconnais dans tout ce que vous avez dit, et je ne retire rien dans tout ce que vous venez de dire, y compris les derniers aspects un peu plus personnels. J'ai toujours eu ma vie, vous savez, je suis maintenant à l'âge que j'ai constaté qu'on m'a toujours appelé, j'ai jamais rien demandé à personne, mais jamais. On m'a toujours appelé.
Vous faites un peu l'innocent, j'imagine que vous avez quand même des petites envies.
Mais je vous dis, vous pouvez croire ce que vous pensez, ce que vous voulez, c'est votre droit le plus strict, je vous dis, on est toujours venu me chercher, et sans doute dans des situations critiques. Par exemple, lorsque Emmanuel Macron m'appelle en désespoir de cause, c'est parce que Mme Sylvie Goulard avait été rejetée par le Parlement européen, parce que, vous savez, quand on fait ces métiers, on est complètement observé à la loupe, et c'est normal, puisqu'on sert l'intérêt général. Bon, il y a eu des problèmes, je ne sais pas si c'était réel ou pas. Ce que je vais vous dire, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est effectivement à 18 mois des élections présidentielles. Moi, j'ai bien connu Jacques Chirac, j'étais très proche de lui, et je me souviens qu'à 18 mois, il était à 11%, Balladur était à 22%. Bon. Très bien. Bon,
vous avez votre carte blanche, Thierry Breton, sinon on n'aura pas le temps.
Je veux juste terminer pour vous dire que on va arriver maintenant à rechercher les hommes ou les femmes providentielles.
Et vous ?
Ben non, parce que moi je travaille sur un projet providentiel. Et je pense qu'avant de parler d'hommes ou de femmes, il faut travailler sur un projet. C'est ce sur quoi je me suis engagé précisément avec un certain nombre de personnes, pour l'Europe, évidemment pour la France, et puis après ça, on verra bien celle ou celui qui pourra le porter, qui voudra le porter. Mais voilà, je travaille effectivement, et je ne m'en cache pas, à un projet providentiel.
Thierry Breton, la carte blanche que vous avez choisie aujourd'hui, ben écoutez, une minute pour la défendre.
Une minute, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui est un continent que je connais très très bien, dans lequel qui est aussi quasiment une seconde patrie pour moi, je pense en particulier au Sénégal. C'est un continent dont on ne parle pas. Et pourtant c'est un continent qui, sur notre planète de 8,2 milliards d'habitants, est constitué dans 51 pays de 1,5 milliard d'habitants, dont 600 millions d'enfants. C'est un continent qui en 2050 va tangenter les 10 milliards, la planète 10 milliards d'habitants, et l'Afrique 2,5 milliards, 850 millions d'enfants. Et voyez-vous, quand je vois tout ce qui se passe, c'est un continent qui est traversé par les guerres. Il y a 11 guerres qui sont terribles en ce moment en Afrique. Il y a eu, entre 2024 et 2025, près de 38 millions de personnes qui ont été déplacées. Depuis 2000, entre 5 et 6 millions de morts, de victimes. C'est un continent dont on ne parle pas, et pourtant c'est un continent qui, en 2100, va avoir 4,5 milliards d'habitants, dont 1,3 milliard d'enfants de moins de 14 ans. Eh bien, quand je vois que l'administration Trump a décidé de couper l'aide, US aid, dont moi je peux vous dire, parce que je vais beaucoup, je passe beaucoup de temps en Afrique, que c'est absolument critique pour lutter contre les maladies, contre la pandémie, contre la tuberculose, contre, bien entendu, le sida, contre la malnutrition, et qu'ils ont coupé de 82%. Mais pourquoi ? Alors que c'est le pays le plus riche du monde. Quand je vois que l'AFD, l'Agence française de développement, notre agence française de développement, a subi des attaques absolument indignes de la part d'un parti d'extrême droite, parce que précisément, on estimait que c'était de l'argent gâché. Mais si vous saviez le travail que fait l'AFD en Afrique, Mais je pense que si ceux qui profèrent ces attaques y allaient seulement, ne serait-ce qu'une seule fois, eh bien je pense qu'ils les retireraient. Oui, je pense que l'Afrique est un continent dont il faut vraiment se préoccuper. Non pas encore une fois en ouvrant nous nos portes massivement, mais en les aidant à se développer comme ils le méritent et comme ils le doivent.
Thierry Breton, c'était votre carte blanche. Vous parliez de l'extrême droite, transition toute trouvée, avec notre sujet de 2027, Françoise Fressoz.
Oui, c'est vraiment cette petite musique qu'on entend, qui monte. Bardella, finalement, il est bien, Bardella. Il est jeune, Bardella, il pourrait être le nouvel Mélanie. On l'entend dans les milieux d'affaires. Est-ce que vous entendez, est-ce que vous êtes sensible à cette musique-là?
Non, mais je lis, comme vous, Madame Fressoz, bien sûr, je le lis. Moi, personnellement, j'ai rencontré deux fois Monsieur Bardella dans le train Paris-Strasbourg, et plusieurs fois dans les couloirs de Strasbourg. Je me rencontrais en tête, sauf encore une fois dans le train, il y a 3 ans de cela, donc je ne peux pas vous en parler plus que ça. J'entends effectivement, moi je vais vous dire, le sujet...
Mais est-ce que vous êtes sensible ou est-ce que vous dites, mais c'est de la folie?
Non, il n'y a rien qui est de la folie. Je veux dire, à partir du moment, vous voyez, on en reparlait tout à l'heure, à partir du moment où nous-mêmes, nous savons exprimer quelles sont les valeurs qui sont absolument essentielles pour nous. Mais après ça, que d'autres veillent rejoindre ce socle de valeurs, ben, c'est ce que j'appelle l'union sacrée. Mais autant, je pense que c'est absolument essentiel par rapport au moment existentiel que nous connaissons de tomber d'accord sur ce qu'il faut faire pour que l'Europe...
Mais union sacrée avec Bardella, vous pensez que ça peut être possible ?
Mais je n'en sais strictement rien. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se dire que, d'abord, ne pas critiquer le fait qu'il y a 38% ou 37% ou que sais-je de nos concitoyens qui ont des sympathies pour ce parti.
Je ne parle pas des concitoyens, je parle du grand patronat qui ont fait dit la France, elle est beaucoup trop socialisée. Il faut, si on veut vraiment faire des réformes, mais il faut faire alliance droite, extrême droite.
Je vous répondrai lorsque je connaîtrai le programme économique de M. Bardella. Aujourd'hui, il est vraiment pas finalisé. Je ne le critique pas. Je pense que c'est sans doute trop tôt. Mais moi, ce que je sais, c'est que je suis d'origine monoriste. C'est René Monory, pour nos téléspectateurs, c'était l'ancien ministre des Finances. Ça a été mon premier patron lorsque je me suis occupé du Futuroscope. Je suis d'origine chiracienne. Et je n'ai pas varié. Et je n'ai pas varié en particulier sur les valeurs que l'un et l'autre...
C'est-à-dire, Bardella, c'est possible à condition qu'ils viennent sur vos valeurs.
Mais il faudra que tout le monde rejoigne, parce que pour faire 50%, aujourd'hui, Bardella, il ne peut pas faire les 50%. Ce n'est pas en rajoutant 5 ou 6 ou 8% de LR qu'il y arrivera. Donc ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir, est-ce que finalement, dans le moment que nous vivons, il vaut mieux s'allier, je vous le dis comme je le pense, avec un parti ou des partis qui vont faire le lit de la vassalisation américaine et de la prédation chinoise, voire avec des œillades appuyées à Vladimir Poutine, ou est-ce qu'il vaut mieux se mettre en résistance pour 5 ans?
On voit que le débat traverse LR, hein, où certains disent il faudrait une alliance jusqu'à peut-être une primaire, jusqu'à CNAFO, d'autres qui disent non, il faut rester au centre. Vous, vous êtes positionné comment dans ce débat de LR?
Je viens de vous le dire, je vous ai dit mes valeurs. Mes valeurs, elles sont Monory, Chirac. Et je n'ai pas varié. Et je ne varierai jamais.
Mais alors, on ne comprend pas. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est compatible avec le Rassemblement national? Est-ce que vous dites au milieu d'affaires, au grand patronat, vous ne devriez pas aller par là? Ou est-ce que vous êtes en train de dire, pourquoi pas?
S'il vient sur nos valeurs, pourquoi pas?
Madame Bensaïd, vous voyez bien, encore une fois, comment les choses se passent. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que je crois que c'est Madame Bouyagé qui l'a dit, peut-être un peu têtu. Implicitement, eh bien oui, je suis têtu, je ne varierai pas. Pour moi, les valeurs dont j'ai parlé sont absolument fondamentales. Après ça, si certains évoluent et reviennent vers ce qui est incarné par ces valeurs, et puis surtout le projet, et j'en reviens au projet providentiel sur lequel il faut travailler, alors il faudra que toute la
vous
France se mette...
Vous travaillez avec qui sur le projet, vous?
Beaucoup de personnes, mais je ne vous dirai pas les noms, mais qui sont manifestés. Mais vous savez...
Mais c'est qui votre tête de gondole?
Mais je ne le sais pas du tout encore, d'accord. Et je vais vous dire une chose, en revanche. Je pense que personne ne le sait. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui, si je faisais référence à ce qui s'était passé 18 mois avant l'élection d'Emmanuel Macron ou 18 mois avant l'élection de Jacques Chirac, je ne suis pas convaincu que sur la liste de tous les candidats, Dieu sait qu'ils sont nombreux et ils ont tout à fait le droit de l'être, je ne suis pas sûr qu'on ait le visage
il peut y avoir une surprise de dernière minute.
Mais l'histoire nous apprend que c'est comme ça que ça a marché au cours de nos dernières élections en France.
Allez, il ne reste qu'une minute avant la fin de cette émission. Thierry Breton, on se quitte avec un vrai ou faux. Vous avez écouté l'émission, je le sais, donc je vous donne certaines affirmations, vous répondez vrai ou faux. Sébastien Lecornu envisage un ajustement de son gouvernement. S'il vous appelle, vous êtes disponible, vrai ou faux?
Vrai et faux, je ne me pose jamais ces questions.
Mais ça n'est pas une réponse. Affirmation de Nicolas Sarkozy en décembre dans Le Point. Jordan Bardella lui fait un peu penser au RPR au temps de Jacques Chirac. Qu'en pensez-vous, vrai ou faux ?
Totalement faux, et ça veut dire que Nicolas Sarkozy en veut toujours à Jacques Chirac, qui pourtant l'a bien aidé dans sa carrière.
Vous pensez que vous avez les épaules, vous auriez les épaules pour diriger la Commission européenne, vrai ou faux ?
Oui, certainement.
Je
ne le nie pas.
Les deux présidents de la République qui ont le plus creusé la dette par ordre chronologique sont François Mitterrand et Nicolas Sarkozy, vrai ou faux ?
Totalement vrai.
C'est dans votre bouquin.
Et c'est d'abord Nicolas Sarkozy en volume, et ensuite 5 points de PIB par an, et ensuite François Mitterrand 2,4 points de PIB par an pendant son double septennat.
Sophie Primas, l'ancienne porte-parole du gouvernement Bayrou, je la cite, « Le macronisme probablement trouvera une fin dans les mois qui viennent avec la fin du deuxième quinquennat du président, vrai ou faux ?»
Ça s'appellera autrement, mais cette force centrale restera.
Xavier Niel, le patron de Free, candidat en 2027, ce serait une bonne idée, vrai ou faux ?
Je ne pense pas qu'il faut le lui souhaiter.
Vous utilisez tous les jours une intelligence artificielle, vrai ou faux ?
Vrai.
Thierry Breton, vous avez été l'invité de Questions politiques. Les 10 renoncements qui ont fait la France, c'est aux éditions Buchet-Chastel. Merci à vous, merci à toutes les équipes d'avoir participé à cette heure de programme.